Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Carnet de Région, magazine hebdomadaire et collaboratif des radios associatives du Languedoc Roussillon. En cette dernière semaine de janvier, Radio Aviva est toujours rédactrice en chef de l'émission avant de passer la main la semaine prochaine à RCF Pays d'Aude. Au sommaire de ce Carnet de Région, avec Radio Lodev, nous irons d'abord nous interroger sur l'avenir menacé du Festival de Poésie Les Voix de la Méditerranée. Et puis dans un sujet réalisé conjointement Radio Pays d'Hérault et Radio Lodev, nous emmène ensuite à la rencontre de l'ancienne secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Ramayad, pour parler ruralité. Un forum sur l'écologie radicale se tiendra à Nîmes le samedi 31 janvier 2015 au Centre André Malraux, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce qu'est l'écologie radicale grâce à Radio Escapade. Et Nathalie Dessauce, d'RCF Pays d'Aude, s'est rendue dernièrement au salon du millésime bio et nous en a ramené le témoignage d'un vigneron au doigt. Delta FM nous invite à un festival dédié à la culture japonaise sous toutes ses formes. Et enfin, Yves Defago, de Radio Gris Ouverte, a rencontré le fondateur historique de la course cycliste L'Étoile de Bessèges. Nous aurons droit à un extrait de leur entretien. C'est parti pour ce nouveau numéro de Carnet de Région. Le Festival de Poésie de Lodev, les Voix de la Méditerranée, qui devait avoir lieu du 16 au 20 juillet prochain, est menacé. Des difficultés financières avec la diminution ou la suppression de subventions publiques obligent la communauté de communes Lodévois et Larzac à revoir sa copie, ce qui crée une vive émotion. Depuis une semaine, 150 000 euros manqueraient pour sauver le festival. Danielle Poletti, la présidente de l'association des Voix Amis de la Méditerranée, a lancé une pétition de soutien.
Nous avons appris de façon un peu brutale le fait que l'organisation du festival était gelée. Nous avons appris cela lors de notre assemblée, l'assemblée générale de notre association le 16 janvier. Ça a été, oui, un choc important. On a attendu d'avoir un petit peu plus d'informations de part et d'autre. Et puis, vendredi dernier, donc, on a décidé de se lancer dans l'action cette fois-ci pour dire que ce festival nous tenait à cœur et qu'on était nombreux à avoir envie qu'il continue à vivre. Les informations, oui, ce sont celles que, pour l'instant, les choses étaient en discussion et qu'on serait informé très rapidement. Donc, je pense que dans la semaine, on devrait en savoir un petit peu plus sur ce qui nous attend. Là, nous allons bientôt arriver à 2000 signatures en même pas 48 heures. La pétition, nous l'avons préparée samedi en début d'après-midi. Elle a été lancée samedi en fin d'après-midi et nous en sommes bientôt à 2000 signataires. Et des signataires de nombreux pays, puisqu'on a des poètes qui signent, des gens bien sûr du Lodévois, de l'Hérault, mais ça va bien au-delà. Et c'est ça qui nous réconforte aussi.
En milieu de semaine, la pétition avait même recueilli plus de 3000 signatures et les soutiens affluent de partout. Marie Poitevin est impliquée à plus d'un titre dans la vie associative et culturelle lodévoise. Elle était même conseillère financière du festival l'an dernier. Pour elle, pas question que les Voix de la Méditerranée disparaissent.
D'abord, on est complètement abasourdi parce que, avec les événements actuels, les événements dramatiques qu'on a eus au mois de janvier, on se rend compte de l'importance de la liberté d'expression. Et ce festival s'appelle Les Voix de la Méditerranée. Et comment on peut taire ces voix à ce moment-là? C'est d'abord ça. Et c'est un festival emblématique d'un partage véritable, d'une ouverture sur le monde, d'une volonté de lien, de mixité, de rencontre. Et là, on nous dit que tout est gelé. Et voilà, on peut pas se taire. Et donc, on veut comprendre et on veut trouver des solutions. Le festival a déjà été très diminué et il ne peut pas être diminué encore. Depuis quelques années, il y a vraiment en amont un grand travail qui se fait avec les enfants, avec les adolescents, avec les lycéens, pour la scénographie, pour plein d'événements divers du festival. C'est un festival international, mais d'abord qui se fait avec les Lodévois et grâce aux Lodévois. Et vraiment, il y avait un équilibre qui était en train de se trouver. Des gens qui viennent de loin, qui sont là pour se rencontrer et pour se faire entendre, des gens qui ne peuvent pas parler dans leur pays et qui là peuvent le faire. Vraiment, je ne comprends pas que dans la politique qui se dit de gauche, on puisse mettre en danger ce genre de festival. Moi, je pense qu'il y a toujours des solutions. Je suis naïve, mais je pense que les solutions financières sont des solutions trouvables et qu'en effet, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas eu d'anticipation, qu'on ne puisse pas penser que les budgets se décident au mois de décembre pour faire un festival qui a lieu au mois de juillet. et qu'il y a des mécénats qui peuvent exister, il y a des fondations ou des aides de subventions européennes. Quand même, il y a beaucoup de pays de l'Europe du Sud qui viennent à ce moment-là et que voilà, il y a des solutions à trouver, tout un chacun. Et si on était concerté plus tôt, et si maintenant on est concerté urgemment, on peut trouver toujours des solutions. Et c'est pas possible autrement. Donc moi, je suis extrêmement choquée et extrêmement mobilisée pour que ce festival perdure comme il est.
Du côté de la communauté de communes, si on attend le débat budgétaire avant de communiquer officiellement, on confirme les problèmes financiers et on planche déjà sur un nouveau projet de festival pour cet été à suivre. Un sujet réalisé par Alain Mendes de Radio Lodev.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
En finir avec l'abandon des territoires ruraux, formidable atout pour la France. Tel était le thème d'une conférence animée cette semaine par Ramayad dans l'Hérault à Paulhan. Aujourd'hui délégué général d'un cercle de réflexion appelé Allons Enfants, Ramayad a été interviewé par Alain Mendes de Radio Lodev et Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault juste avant sa conférence.
Ramayad, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui à Clermont-l'Hérault, vous venez ancienne secrétaire d'État, ancienne ministre, vice-présidente de l'UDI, élue au Conseil régional d'Île-de-France aujourd'hui, pour présenter et animer une conférence sur la ruralité. Dites-nous tout d'abord pourquoi vous avez choisi d'évoquer ce thème.
C'est vrai que ce n'est pas à la mode, mais les territoires ruraux ont forgé la France, font partie de la France, et il n'y a pas de raison que la République ne s'y intéresse pas. Depuis trop longtemps, une forme d'indifférence, voire de mépris à travers la domination intellectuelle des analystes métropolitains, urbains. Et je pense qu'on va payer très cher cette relégation parce que les territoires ruraux, c'est la France, c'est la République. La République doit y prendre toute sa part, toute sa place. Et on ne peut plus continuer comme ça à laisser les services publics abandonner ces territoires. Il y a un vrai besoin d'intégration sur le territoire national et donc on est là pour faire des propositions, pour demander un moratoire sur les services publics qui désertent, pousser les partenaires privés à développer des services de proximité, les entreprises à s'installer, pousser les pôles d'excellence rurale, notamment via la jeunesse, ça va être un de nos sujets, une de nos propositions phares, et surtout entendre aussi les habitants qui ont des choses à dire, un diagnostic à dresser, mais aussi des propositions à faire à travers aussi les personnes, les intervenants qui seront là.
Et tout ça autour d'un club de réflexion. Allons Enfants, vous êtes délégué général. Pourquoi ? Vous avez expliqué que c'est plus facile à faire avec un club de réflexion qu'avec un parti politique entre guillemets traditionnel.
Oui, d'abord, les partis politiques, c'est vrai, sont très limités parce qu'il faut... Il faut penser comme ci, comme ça, et donc moi je suis une femme qui aime penser librement et qui n'est pas de sectarisme. J'ai pas envie que notre réflexion soit limitée par des considérations idéologiques. Je dois pouvoir échanger et notre club doit pouvoir échanger avec des hommes de droite, de gauche ou pas du tout en quartier, parce que la richesse vient de ces échanges. Et je n'aime pas le sectarisme. Donc c'est un club de réflexion qu'on a créé en 2010 dans cet objectif-là. Et donc être beaucoup plus ouvert que ne le sont les partis politiques.
Et après, donc là on est sur une réflexion, un échange, du débat. Concrètement, l'action, ça va se passer comment derrière ? C'est les politiques qui vont se ressaisir un petit peu de ce que vous allez leur dire.
On verse au débat nos propositions. Parce que j'ai remarqué une chose depuis que je suis engagée en politique. On parle beaucoup de cumul des mandats, du fait qu'on voit toujours les mêmes, mais on entend toujours aussi les mêmes idées. Et ça fait des années que sur des tas de sujets, y compris sur cette question de la ruralité, les rapports s'empilent sur les bureaux des ministres et qu'on n'en fait rien. Et donc il faut refaire une piqûre d'appel, une piqûre de rappel, à un moment encore une fois où tous les yeux vont être braqués sur les quartiers urbains en difficulté après les attentats. Et on va oublier tout le reste de la France. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'à chaque fois, on commet la même erreur. Et à chaque fois, on a une partie des territoires qui, politiquement, se sentent abandonnés. Et donc, nous sommes là pour dire, il y a cette France-là qui fait peut-être pas de bruit, qui pose peut-être pas de problème, qui fait peut-être pas la une des journaux, mais ils sont français et la République doit aussi leur porter de la considération et du respect. Voilà, on est là pour porter ce message-là, mais vraiment avec détermination et ne pas laisser l'exclusivité de cette parole aux extrémismes. Alors après, en termes d'action, nous nous sommes un club de réflexion, nous ne sommes pas au gouvernement, nous ne sommes gauche-droite, peu importe d'ailleurs, nous espérons qu'un jour, on soit entendu par les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, là c'est pas notre problème. L'action la plus concrète que nous menons, en fait, c'est en matière d'éducation. Puisque nous avons créé un prix de l'innovation scolaire qui fera l'objet d'une attribution en fin d'année lors du gala annuel de l'association. Et on donnera ce prix à une association, une organisation, une collectivité qui aura développé des méthodes d'enseignement particulièrement efficaces auprès des enfants. Voilà. Et parce qu'on pense aussi que l'un des problèmes majeurs de la France aujourd'hui, c'est que son éducation nationale ne marche plus comme il faudrait. On a eu la meilleure école du monde à une époque, et aujourd'hui, le bateau coule. Voilà.
Environ 150 personnes sont venues participer à cette conférence de Ramayad organisée par le club de réflexion Allons Enfants. C'était mardi soir dernier à Pollan dans l'Hérault. C'était un sujet d'Alain Mendès de Radio Lodève et d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Carnet de région.
Hérault.
Aude,
Gare,
Hérault,
Pyrénées-Orientales,
Gare,
Lozère,
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Samedi 31 janvier au centre André Malraux à Nîmes va se tenir un forum sur l'écologie radicale. Toute la journée, vous pourrez venir écouter, débattre, vous informer sur des sujets liés à l'énergie, puisque c'est ce thème qui a été retenu pour cette session. Toute l'après-midi, des ateliers vous seront proposés pour réfléchir ensemble sur des questions essentielles pour l'avenir. Par exemple, comment s'organiser pour consommer moins d'énergie ou encore quelle production pour nos besoins. Le matin, une table ronde intitulée « Énergie et société » sera organisée. Elle portera sur les différents courants de l'écologie radicale et leurs propositions et analyses sur le thème de l'énergie. Parmi les intervenants, Jocelyn Michard du mouvement Écologie Sociale et Libertaire qui a répondu aux questions de Rémi Goujon pour Radio Escapade sur sa définition de l'écologie radicale.
Alors après, c'est un peu difficile de parler de courant de l'écologie radicale parce qu'en fait, il y a beaucoup de courants différents au sein de l'écologie radicale. Donc c'est justement un peu le but de l'initiative, c'est de réussir à les regrouper un peu sous cette étiquette. On a choisi écologie radicale parce que ça nous paraissait résumer assez bien le propos, puisque radical, à l'origine, ça veut vraiment dire creuser jusqu'à la racine des choses. Donc c'était en effet pour s'opposer à cette écologie que on pourrait appeler écologie d'accompagnement, qui est verdir un petit peu le système tel qu'il est, prendre quelques mesures de protection de la nature, mais qui sont au final assez simplistes et pas du tout suffisantes pour faire face à la crise écologique actuelle. Non, la volonté, c'est vraiment de se démarquer de ce système-là, parce que la plupart des courants qui réfléchissent à ces idées ont aussi une analyse sociale, politique, du pouvoir, du capitalisme, et considèrent que le changement, ça peut très très difficilement, voire pas du tout, venir d'en haut et du système, qui est vraiment verrouillé par des mécanismes sociaux, politiques, d'accès au pouvoir, de reproduction des élites, etc. Et que donc on a vraiment besoin de renouveler tout ça à partir d'en bas, à partir d'initiatives locales, à la fois par des alternatives concrètes, des expériences de vie un petit peu différentes au niveau de la consommation, de la production, du rythme de vie, du rapport au travail, etc. Et aussi à partir d'une organisation politique qui, là aussi, émergerait de la base avec de l'organisation par quartier, par région, par commune, et qui arrive à se fédérer, à se mettre en réseau pour changer les choses et faire remonter des propositions à partir de ça, pour éviter d'avoir une organisation pyramidale comme aujourd'hui, où il y a beaucoup de décisions qui viennent d'en haut jusque vers le bas. Là, au contraire, commencer à travailler les propositions et décisions d'en bas et réussir à construire petit à petit un système de représentation, de réseau qui puisse faciliter la mise en place de toutes ces initiatives ou la coordination de toutes ces initiatives. Donc on est vraiment dans une logique de rupture par rapport au système en place, au mode de représentation actuel, de gouvernement, etc.
Jocelyn Michard du mouvement Écologie Sociale et Libertaire répondait à Rémi Goujon de Radio Escapade.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
L'avenir de la viticulture bio passera-t-il par la ville de Montpellier? Certainement, vu le succès grandissant du salon Millésime Bio qui est organisé cette semaine dans la capitale de région. Quelques rappels techniques et quelques anecdotes professionnelles avec le témoignage d'un participant au doigt au micro de Nathalie Dessauce pour RCF Pays d'Aude.
Le vignoble bio est en panne. Après des années d'essor, son développement en France et en Languedoc-Roussillon connaît une pause. C'est à présent aux consommateurs de doper la filière. On en parle à Millésime Bio, c'est le premier salon de vin bio au monde avec 800 exposants issus de 14 pays. Millésime Bio se tient à Montpellier jusqu'à ce mercredi 28 janvier. Il s'impose comme l'incontournable rendez-vous des professionnels du vin. Il y a 22 ans, à sa naissance, Millésime Bio n'était qu'un tout petit événement qui se tenait au Mas de Saporta. Aujourd'hui, le salon Millésime Bio, exclusivement ouvert aux professionnels et 100% bio, donne littéralement le pouls du marché de la filière viticole biologique au niveau mondial. Je vous propose d'en parler avec Louis Fabre. Il est lui-même vigneron bio à Luc-sur-Orbieu. Il répondait récemment aux questions de Michel et Elisabeth Massacré dans notre émission Le Mac de l'économie.
Culture biologique, il est difficile de définir de façon positive. C'est plutôt de façon négative qu'il est facile de dire c'est cultiver sans produits chimiques. Actuellement, nous pouvons mettre sous nos étiquettes vin biologique. Alors, le vin biologique, c'est quoi? C'est un vin issu de raisins cultivés en agriculture biologique et qui correspond à un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, il y a une limitation des doses de soufre, il y a une interdiction d'un certain nombre de procédés et de produits chimiques, de telle sorte que l'on puisse garantir aux consommateurs que il n'y a pas de résidus dans ces vins. Je ne souhaite pas être en culture biologique, pour que ce soit plus difficile, c'est pas un parcours du combattant, c'est plutôt une réponse possible à un instant donné, dans un environnement donné. Nous avons la chance ici d'avoir un vent dominant qui est le Cers, qui est sec, et donc les atteintes du mildiou sont très très inférieures à celles qu'elles sont en Champagne. Enfin, c'est beaucoup plus facile d'être vigneron bio à Luc-sur-Orbieu qu'en Bourgogne ou dans le Bordelais. Les entrées maritimes dans le Médoc sont très largement supérieures aux entrées maritimes à Luc-sur-Orbieu. Au-delà du vent, les sommes de température. Nous avons un climat qui est quand même chaud et relativement sec. C'est favorable à la culture de la vigne. Les pluies sont très violentes, mais brèves dans le temps. Tout n'est pas facile. Hein. Il y a la lutte contre la flavescence dorée, qui est pas évidente en culture biologique. Actuellement, nous travaillons avec des pyrètres naturels, c'est des extraits de plantes. Autre aspect difficile, la lutte contre le démis. Alors, c'est des papillons. Alors, ça paraît incroyable de penser que les vignerons n'aiment pas les papillons. Mais oui, il y a des petits papillons, les œufs démis, qui pondent des petits œufs sur les baies de raisin. Ces petits œufs font des petits vers et les petits vers font des petits trous.
Louis Fabre, vigneron bio à Luc-sur-Orbieu dans les Corbières. Il s'intègre dans les 20 571 hectares de viticulture bio sur le Languedoc-Roussillon, la première région viticole bio de France, même si le bio représente encore au moins de 10% du vignoble languedocien. Pour le marché du bio, les professionnels ne parlent pas de stagnation, mais plutôt de respiration. C'est aujourd'hui le consommateur qui va orienter le marché, confirme Henri Garino, délégué à la viticulture de la région Languedoc-Roussillon. On a les outils et les moyens financiers donnés par l'Europe pour stimuler notre filière, mais on ne peut pas développer si les consommateurs ne sont pas là. Reste que la loi Evin limite la publicité mettant en avant un alcool, même un vin bio. Pas facile de communiquer dans ces conditions. C'est l'agence bio qui va être chargée de cette délicate mission. La viticulture bio à l'honneur, donc avec ce salon Millésime Bio à Montpellier jusqu'au mercredi 28 janvier le soir.
C'était un sujet de Nathalie Dessauce pour RCF Pays d'Aude.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Ce week-end, à Aigues-Mortes se déroule le festival À propos du Japon, un festival dédié à la culture japonaise sous toutes ses formes. Mélanie Arbousset de Delta FM a rencontré l'association organisatrice qui nous en dit un peu plus sur cet événement.
Nous recevons l'association À propos du Japon avec Fabienne Jacquemin, bonjour.
Bonjour.
Et monsieur Hurtal, c'est bien ça ?
Je suis le président de l'association et j'ai participé donc avec Fabienne à l'organisation donc du festival.
Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet événement ?
Eh bien écoutez, cet événement, c'est un festival qui va faire découvrir la culture japonaise en général. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de choses, des conférences, des kebanas, des démonstrations d'arts martiaux, des pièces de théâtre, spectacle de danse et puis le cinéma qui sera ouvert toute la journée du samedi au dimanche en entrée libre avec une pièce de théâtre dans le cadre bien sûr de ce festival qui va se passer à Port-Camargue et un concert de bambou orchestra, donc des tambours qui va se passer aussi au Casino Flamingo au Gros-du-Roi. Avec bien évidemment des stands, donc vous pouvez trouver beaucoup de choses concernant le Japon, à savoir des sabres, des couteaux, du tissu, du thé, du saké, beaucoup de choses qu'ils vont vendre qui vient du Japon.
Et est-ce qu'on peut donner un petit peu le programme dans le détail ?
Pas de souci. Donc le samedi donc à 11h, conférence sur les kebanas à la salle Oustao, boulevard Bididoro, c'est au 34 à Aigues-Mortes. En début d'après-midi, donc il y aura tout ce qui est démonstration d'arts martiaux. Karaté, Kendo, Kyudo et Aïdo.
À la chapelle des Capucins.
À la chapelle des Capucins. Mm-hmm. Par la suite, donc, à 16h, donc, il y aura la pièce de théâtre qu'il y a un à Hiroshima, qui sera donc à Hôtel des Arcades. C'est au 23 boulevard Gambetta, donc à Aigues-Mortes. Après, à 16h30, on passera sur un spectacle de danse pop japonaise.
C'est à la chapelle des Capucins.
Voilà. Mmh. Et à 16h30, donc il y a le cinéma, il y a l'avant-première de Paris Frenia.
Après, il y a deux documentaires, Quand le Japon s'ouvrit au monde, un documentaire qui est très intéressant sur le contre-courant du mouvement de modernisation du Japon. Ensuite, il y a Pensée du Japon. Ensuite, il y a Mémoire d'une geisha. Après, il y a Wasabi. Tout le monde connaît un peu Wasabi, je pense. Et dimanche, donc à partir de 10h, Pokémon le départ. Après, Ghost in the Shell, à 13h30. Un film que tout le monde connaît, en tous les cas les fans du Japon. C'est le Japon futuriste régi par l'Internet. Et puis Naruto, que tout le monde connaît aussi, je pense, au niveau manga, qui lui aussi sera diffusé à 15h.
Donc il faudra revenir au samedi pour la pièce de théâtre, donc La Vague.
Mm-hmm.
Donc il sera donc à 20h30 à la salle du Ponant, à Port-Camargue.
Cette pièce est une magnifique pièce. Pour les réservations, ça c'est très important, il faut aller sur www.wezevent, alors c'est wezevent.com/la-vague, V-A-G-U-E. Donc ça c'est La Vague, donc la pièce de théâtre. Ensuite, donc le concert Taiko qui aura lieu le dimanche soir, Bambou Orchestra, un concert de musique du monde, un ensemble percussif unique avec des tambours japonais, des métallophones, marimba, etc. Et qui aura lieu donc au Casino Flamingo. La place est à 8€ et les réservations sont à faire au Gros du Roi, donc sur le site de www.grosduroi.groupetranchant.com et vous allez dans le spectacle et vous trouverez donc les billets pour imprimer, en tout cas réserver et imprimer les billets. À 18h le dimanche, concours de cosplay, c'est costume player, donc c'est s'amuser avec les costumes et c'est en général des personnes qui se déguisent en manga. La première demi-heure, ça sera pour les enfants et après pour les adultes et puis de nombreux prix à gagner.
Et le dimanche aussi, il ne faudra pas oublier qu'il y a une cérémonie du thé qui aura lieu donc à 15h et c'est donc au restaurant Saint-Louis, 10 rue Amiral Courbet, à Aigues-Mortes.
Sans oublier que donc nous ouvrons le festival à 10h le matin et qu'il se termine à 19h.
Bon, mais on encourage nos auditeurs à venir nombreux. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Bon festival.
Merci bien.
Toutes les informations et le programme sur le www.apropos-du-japon.org et on remercie Mélanie Arbousset de Delta FM pour cette invitation.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Dimanche 8 février, la ville d'Alès accueillera la 5e et dernière étape de la 45e édition de l'Étoile de Bessèges pour un contre-la-montre individuel de 12 km. Créée en 1971, cette épreuve cycliste internationale, la première du calendrier annuel européen, est devenue une classique et au fil des années une épreuve incontournable en début de saison pour les coureurs, les médias sportifs et le public. Pour Roland Fangile, président fondateur de l'Étoile de Bessèges, cette longévité exceptionnelle est due pour une bonne part à l'engagement et à la passion des bénévoles qui font vivre cette course professionnelle.
Ben je crois tout simplement à une passion qui est celle de vouloir fonctionner. Bon, je dirais plus trop une passion maintenant, parce que jusqu'à 20-25, on se régalait parce qu'on était jeunes, c'était facile, tout marchait bien. Et après, de plus en plus, on rencontre des difficultés. Mais je crois que les difficultés, il faut essayer de les passer, de les surmonter. Et c'est pour ça qu'avec l'équipe qui compose l'Étoile de Bessèges, les 80 bénévoles qu'on va retrouver pendant la semaine sur la course, c'est ces garçons qui font en sorte de donner le moral. Et quand le moral est au beau fixe, ben la vie est belle.
Vous avez parlé à l'instant de difficultés. En 45 ans, le cyclisme a forcément changé. Qu'est-ce qui a changé pour vous ?
Les règlements qui sont des règlements qui nous sont appliqués par l'Union cycliste internationale. Et des règlements qui font en sorte d'encourager le cyclisme à un haut niveau, au niveau des grosses équipes. Et après, les petits organisateurs comme nous, puisqu'on va dire que sur le plan d'un budget, qui est un budget important pour nous, on doit être le plus petit budget des épreuves professionnelles internationales. Alors donc, après, il faut arriver à jongler avec ce budget et répondre aux demandes des équipes qui sont toutes, qui ont envie de faire le début de saison. Et qui nous, malheureusement, on a refusé 20 équipes cette année, parce que, bon, c'est des équipes continentales, c'est des équipes que l'on ne peut pas encore considérer avec de gros moyens chez nous. Alors ça, c'est la malchance et c'est le jeu qui veut ça.
Comment avez-vous réussi, justement, à dépasser ces difficultés ?
Eh bien, avec une volonté qui est celle de chercher des partenaires, de trouver des partenaires. On a l'avantage d'avoir des collectivités comme la ville d'Alès, à qui on vend un spectacle, à qui on vend une animation qui est toute une journée. Alès Agglo, qui participe aussi pour le patronage du maillot de la montagne. C'est les contacts et les relations qui font que le fait d'animer cette journée de course fasse en sorte qu'on arrive à retrouver sur le département du Gard les 5 communes qui nous ont accordé leur confiance.
Comment vous expliquez l'enthousiasme qu'ont les coureurs français et étrangers pour votre épreuve ?
Je vais dire que c'est la première de la saison sur le calendrier européen. C'est sûr qu'il y a d'autres épreuves, le Qatar ou autre, mais on reprendra les propos de Marc Madiot qui a expliqué que le cyclisme en général, c'était des épreuves comme l'Étoile de Bessèges, le Tour du Limousin, qui avait quand même 45 ans d'âge. Et quand nous, on a commencé, il y avait bien d'autres épreuves qui n'étaient pas nées.
Donc, vous avez formé tout à la fois des jeunes et de nouvelles épreuves.
Oui, tout à fait, puisqu'on s'aperçoit que maintenant, les coureurs vont au Qatar, ils vont à Dubaï, ils vont à Oman, mais que là-bas, il n'y a pas un public qui est fada de vélo comme chez nous.
Pour la 4e année consécutive, tous les passionnés de la petite reine se donneront rendez-vous sur le parcours de ce contre-la-montre individuel dimanche 8 février. Signalons que des navettes seront à la disposition du public depuis le centre-ville d'Alès pour rejoindre le point d'arrivée situé sur la montée de l'Ermitage. C'était un reportage réalisé par Yves Defago de Radio Grille Ouverte pour le Carnet de Région. Carnet de Région qui touche à sa fin pour cette semaine en tout cas. Radio Aviva était rédactrice en chef de cette émission. La semaine prochaine, RCF Pays d'Aude prendra le relais. Merci à toutes les radios qui ont participé à la confection de ce numéro. Et à la semaine prochaine pour un nouveau carnet de région.